I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host
Niñas Bien Podcast. We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish, but you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast, so everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Parents Informés. Je suis Charline, la créatrice de ce podcast qui a pour vocation d'offrir aux parents et futurs parents de l'information sur la grossesse, la petite enfance et l'enfance sous forme de conversations détendues avec des intervenants spécialisés. Merci à vous tous qui écoutez et merci pour vos messages. Si vous aimez ce podcast, parlez-en autour de vous et abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute telle que Spotify ou Apple Podcast pour ne pas manquer la sortie des nouveaux épisodes. Laissez des commentaires et des étoiles si votre plateforme le permet pour dire pourquoi vous aimez ce podcast. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook, venez vous abonner aux pages du podcast, mettre des commentaires et partagez-le avec le @ suivi de parents informés. Toutes ces actions sont vraiment essentielles pour que ce podcast continue de grandir. Pour ce 32e épisode, je reçois Mélanie qui, après avoir travaillé plus de 10 ans dans le marketing digital, a créé la société Nasama pour proposer un accompagnement à la parentalité à la fois à travers l'organisation de cercles de femmes, mais également d'ateliers de portage, de babysitting ou de bébé yoga. Elle est également très active dans l'association Supermaman France qui propose de mettre en relation des femmes venant d'accoucher avec des femmes ayant envie de proposer leur aide pour confectionner un repas et partager un moment avec ses mamans. Dans cet épisode, Mélanie nous explique ce que représente la sororité dans la maternité et pourquoi elle prend de plus en plus de place dans notre société. Nous discutons ensemble du paradoxe du fait de se sentir seule, sans pour autant avoir envie d'être entourée de personnes autour de nous qui ne partagent pas ou plus les mêmes valeurs autour de la parentalité, et de la nécessité de créer un nouveau cercle. Elle nous détaille les moyens à notre disposition pour rencontrer de nouvelles personnes pendant la grossesse, mais également comment adapter nos comportements pour mieux accompagner nos amis et nos familles lorsqu'ils deviennent parents. Enfin, elle évoque la place du père et du deuxième parent, encore trop souvent oubliés. Dans cet épisode, Mélanie évoque l'épisode 27 avec Amandine sur le quatrième trimestre. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ajoutez-le à votre liste d'écoute. Elle évoque également Ophélie Bourgeois qui tient le compte Instagram Garde tes conseils et qui est l'autrice d'un livre du même nom et d'un second ouvrage nommé Culpabilité ta mère. J'espère que cet épisode vous plaira et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Mélanie.
Bonjour Charline.
Et merci d'avoir accepté de participer au podcast.
Merci à toi, je suis vraiment ravie d'être là.
Avec toi, on va parler de sororité, mais avant de rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que tu peux me raconter un petit peu ton parcours, ta société actuelle, tes projets
Bien sûr. Alors, je suis Mélanie, je suis maman de 3 enfants qui ont 8 ans, 6 ans et 2 ans. J'ai travaillé plus de 10 ans en agence de com dans le marketing digital et j'ai décidé de changer de profession il y a 2 ans. Il faut savoir que j'ai passé mes grossesses dans des lieux différents, dans des pays différents, et que chaque matrescence m'a amené à me poser des questions sur ce que je voulais faire, les valeurs que je voulais transmettre. Je me suis sentie seule à la naissance de mes enfants, sans forcément savoir où aller, où trouver d'autres mamans, comment rencontrer du monde, voilà, comment se créer son réseau. Et donc, j'ai lancé Nasama pour venir en soutien aux jeunes parents de ma région, près de Genève, pour créer une communauté bienveillante. J'y propose des ateliers dès la fin de grossesse avec des cercles futures et jeunes mamans. Je propose des ateliers de portage physiologique, des ateliers signes associés à la parole, bébé signe, mm-hmm. et aussi des ateliers bébé yoga. Et mon objectif, c'est d'accompagner les parents, les mamans en particulier, mais les parents dans leur rôle pour qu'ils puissent tisser un lien fort avec leur bébé et trouver un lieu soutenant et chaleureux et surtout non jugeant. Je suis également active dans l'association des Super Mamans France. C'est une association qui vient en soutien aux parents venant d'avoir un enfant et en organisant des bichonnages. Et donc, je suis maman contact de l'un. Et je fais également partie de l'équipe qui anime le compte Instagram.
Ok, ben, on reparlera de l'association tout à l'heure parce que j'ai quelques questions et je pense que ça peut intéresser les mamans. J'ai deux questions qui me sont venues pendant ta présentation. La première, c'est où est-ce que tu as eu tes grossesses ? Parce que je trouve ça intéressant d'avoir un retour d'expérience de comment ça se passe ailleurs.
Alors, mon premier enfant, mon premier garçon est né au Canada, à Toronto. On y habitait avec mon mari à l'époque. Mm-hmm. Donc là, j'ai vraiment découvert ce que c'était... J'avais la vision française d'une grossesse et j'ai découvert beaucoup de choses. Le Canada est, je vais appeler, plus avancé que nous en termes de communauté et de sororité, je trouve, autour de la parentalité.
D'accord.
Ma deuxième grossesse, je l'ai faite en France, à Grenoble, mais on venait juste d'arriver dans la région et je ne connaissais personne. Et ma dernière grossesse, je l'ai faite dans la région où j'habite actuellement. Donc là, j'avais un tissu social un peu plus développé, on va dire.
Ok. Et Nasama, ça vient d'où ? Est-ce que ça a une signification ?
Oui. Alors en fait, c'est parce que mes enfants s'appellent Nathan, Samuel et Maxine.
D'accord.
Quand je me suis lancée là-dedans et que je cherchais un nom, je me suis dit que sans eux, sans devenir maman, je ne serais jamais arrivée là. Et c'est vraiment le cheminement au fur et à mesure et puis ma dernière grossesse qui m'a un peu boostée et lancée, donc voilà.
Et est-ce que le fait d'avoir eu des grossesses à l'étranger et du coup d'avoir vu d'autres choses, c'est ça qui t'a aussi donné envie de proposer quelque chose en France ?
Oui, clairement, parce que quand je suis arrivée pour ma deuxième grossesse en France, je pense que c'est celle que j'ai le moins bien vécue en termes de soutien, parce que on venait d'arriver dans la région. On connaissait personne. Bon, la famille était forcément plus proche qu'au Canada, ça c'est sûr. Mais en même temps, ils étaient quand même à une certaine distance qui ne leur permettait pas de venir immédiatement pour une heure, etc. Ça faisait comme au Canada où il a fallu qu'on planifie leur visite. Donc, j'ai vraiment eu une découverte à ce moment-là. Et c'est vrai que le Canada s'est vraiment bien passé parce que là-bas, ils ont une vision... beaucoup plus, je ne sais même pas comment l'appeler en fait, mais ils sont plus famille, on va dire. Déjà, en tant que maman, tu pourrais prendre un congé maternité de 1 an. Le papa peut prendre aussi un congé parental. On peut se partager entre la maman et le papa un congé parental, mais et les papas le font au Canada. Il y a énormément de choses et d'activités qui sont proposées pour te permettre de rencontrer justement d'autres mamans avant que tu aies accouché, pour que tu aies ton réseau et que tu puisses après échanger et discuter et faire ce partage de connaissances.
Ok, bah, c'est super intéressant à savoir. C'est un peu, moi l'image que j'en ai, c'est un peu les films américains, tu sais, où on voit ces mamans qui, après la naissance de leur enfant, se retrouvent dans des cercles de parole toutes assises avec leur bébé. Et ça me donne vraiment cette image-là. Et ce que nous, on a très peu pour l'instant, en tout cas en France, en tout cas, c'est pas institutionnalisé, quoi. Alors que là-bas, on a l'impression que c'est vraiment institutionnalisé de participer à ce genre de choses, ouais.
Ah, mais clairement, j'ai fait ma préparation à l'accouchement avec, on va dire, le réseau médical là-bas. Donc, on a fait les, je ne sais plus, 5 ou 6 rencontres. Là, c'était en couple et en collectivité, donc avec d'autres futurs parents. Mais en plus de ça, moi, j'avais choisi de faire de l'aquagym, spécialement pour femmes enceintes, parce que mon fils est né fin décembre, donc il y a eu de septembre à décembre, je faisais plus beaucoup de sport, enfin j'étais plus très active, donc je voulais reprendre ça. Mm-hmm. Et en fait, ces cours-là étaient spécifiques pour les femmes enceintes, avec 3 quarts d'heure de discussion au départ et 1 heure dans l'eau. Et franchement, c'était fantastique. C'est là où j'ai rencontré les mamans qui m'ont suivie, puisque quand on commence l'aquagym à ce moment-là, c'est sur la fin de la... Enfin, il y en a beaucoup, c'est un peu tout le temps, mais là, il y avait vraiment beaucoup de... en fin de grossesse. Et donc, on s'est retrouvés à 6 mamans entre à 2 mois d'écart sur les naissances. Et donc, on s'est retrouvés après, on se faisait des cafés papotes ou des poussettes papotes, enfin, etc. Et c'était vraiment chouette parce que j'ai réussi à créer ce lien au départ, en fait. Même en étant une expat, entre guillemets, même si ça faisait 3-4 ans qu'on y était. Et en France, je n'ai pas retrouvé ça, tu vois. Je n'ai pas réussi à retrouver de lieu. Je voulais refaire aquagym. Alors, ça n'existait qu'avec la sage-femme, dans un truc de kiné, avec une fois de temps en temps une autre maman. Enfin, vraiment pas l'idéal pour créer du lien.
Oui. Alors, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. Pour commencer, est-ce que tu peux me dire ce que c'est que la sororité et en particulier, qu'est-ce qu'on entend par sororité dans la parentalité ?
Alors, la sororité, c'est le fait de se retrouver entre femmes de tout âge, de toute culture. Il y a vraiment une mise à égalité puisqu'on ne va pas avoir de comparaison, d'évaluation entre chacune. On est vraiment à égalité et ça permet de favoriser les conversations respectueuses. Ça permet de favoriser justement l'échange et ça permet de favoriser l'entraide. Donc, la sororité, c'est le fait voilà, de se retrouver et vraiment de se créer un soutien entier, bienveillant et non jugeant. Je pense que ce sont deux mots que je vais dire très souvent pendant toute notre discussion parce que pour moi, c'est vraiment la base de la sororité. Dans la parentalité, je dirais que c'est le fait de se soutenir entre parents. Parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, à la naissance d'un enfant, on se sent seul. Déjà, on a appris, on est parent dès que le bébé arrive. C'est-à-dire qu'il sort du ventre de sa mère et hop, on est parent. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas comme ça. Ça s'apprend d'être parent. On peut pas, c'est pas quelque chose d'inné. En plus, comme on a plus... on n'a plus ce partage de connaissances comme pouvait y avoir avant, dans le temps où les femmes se réunissaient, etc., et se faisaient leur groupe. On est vraiment sûr, quand le bébé arrive, et ben on va faire tout un apprentissage. L'enfant va se développer pour devenir un adulte, et puis ben nous, on va le suivre et on va se développer en tant que parent. Et ce qu'on voit aussi, c'est un constat, c'est qu'on est énormément suivi pendant notre grossesse. On a, je ne sais plus, au moins tous les rendez-vous mensuels, plus les échographies, plus voilà, les préparations à l'accouchement. Et puis, on passe 3-4 jours à la maternité. Et puis après, si on a 2 visites qui suivent pour vérifier que le bébé va bien, on parle un peu à la maman, mais je veux dire, c'est surtout pour le bébé, eh ben, on est un peu livré à nous-mêmes et on doit se débrouiller. Moi, j'entends beaucoup, parce que ça fait j'échange pas mal avec les mamans, et moi, la première, j'ai déjà dit, personne ne m'a jamais prévenu. Personne ne m'a dit que j'allais traverser toutes ces émotions psychologiques, que j'allais avoir ces changements et bouleversements hormonaux, que j'allais me sentir seule avec mon bébé. Enfin, moi, je croyais que c'était facile d'être maman. Finalement, on s'aperçoit que même le corps médical, en fait, ne nous a pas vraiment préparé à ça. Et là, c'est vrai que je parle en tant que maman principalement, mais en tant que papa, il y a aussi énormément à dire, puisqu'ils sont un peu mis à l'écart.
Ils sont encore moins préparés que nous.
Bah, c'est clair. Donc pour moi, la sororité dans la parentalité, c'est le fait de se soutenir entre parents, mais pour partager notre expérience de manière authentique. Parce qu'on voit aussi avec les réseaux sociaux, le « tout va bien, la maison elle est nickel, les enfants c'est des anges, ils font jamais le foutoir, ils font des super activités manuelles, etc. » En fait, on sait que ce n'est pas vrai. Il y a forcément des pétages de plomb, il y a forcément des cris, il y a forcément des... Voilà, on traverse tous des...
La vie, quoi.
Oui, non, mais c'est ça. Le fait de se soutenir de manière authentique et bienveillante, ça permet justement de pouvoir mieux appréhender notre parentalité et de pouvoir peut-être déculpabiliser, en fait, tout simplement sur ce qui se passe.
Ouais.
J'ai écouté l'épisode d'Amandine qui parle du quatrième trimestre et elle disait à juste titre, tu sais que déjà on n'a plus notre entourage comme avant. On n'a plus, on en parlait déjà avec moi qui ai vécu à l'étranger, etc. Mais c'est vrai que on est beaucoup à ne plus habiter à côté de nos parents, à côté de nos familles, et donc avec des distances qui limitent énormément l'aide que notre entourage pourrait apporter. Donc cette sororité permet en fait de retrouver ça qu'on n'a plus.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qui se joue dans la manière d'éduquer nos enfants qui fait qu'on s'éloigne un peu aussi de nos parents et de nos grands-parents et des conseils qu'ils pourraient nous donner? Parce que effectivement, souvent, on entend moi, j'ai plus envie de recevoir ma grand-mère quand je sors de la maternité parce que elle va m'expliquer qu'il faut que je laisse pleurer mon bébé et que j'ai pas envie de laisser pleurer mon bébé et donc c'est plus simple pour moi de pas la voir. Est-ce que ça crée pas aussi de la distance quelque part?
Alors, je sais pas si ça crée de la distance. Mais clairement, c'est quelque chose que l'on auquel on doit réfléchir et savoir comment on l'aborde, ça c'est sûr. Et c'est pas que lié à la génération. Là. Je sais pas si tu suis le compte d'Ophélie Garde tes conseils.
Oui.
Il y a des fois, je vois des trucs hallucinants d'une copine. Enfin, je veux dire, on est quand même dans des générations très proches. Et des fois, c'est quand même hallucinant ce qui est partagé. Donc je sais pas si ça éloigne. Mais clairement, dans la sororité, je pense, ce ne sont pas les personnes vers qui on va se tourner.
C'est vrai que je trouve ça hyper paradoxal. Enfin, j'ai l'impression qu'en ce moment, on parle beaucoup du fait qu'on a besoin d'être entouré, on a besoin de sororité, justement, on a besoin de tout ça. Et je suis assez d'accord avec ça. Et en même temps, de se dire, en fait, les gens qu'on a autour de nous, qui sont potentiellement nos amis, qui sont potentiellement, tu le disais, c'est pas forcément des générations, des écarts de génération, ça peut être nos parents, ça peut être nos amis, ça peut être nos médecins qui nous suivent au quotidien, et que ces gens-là, en fait, on reçoit pas ce qu'on attend à ce moment-là. Et du coup, on cherche ça ailleurs. Et on se dit, je suis très seule, mais en même temps, les gens qui sont autour de moi, c'est pas forcément ceux vers qui j'ai envie de me tourner. Mmh. Et tout ça, je trouve ça très paradoxal et je trouve que c'est un équilibre qui est difficile à trouver, en tout cas de plus en plus.
Oui, parce que il faut qu'on arrive à partager notre opinion ou nos besoins sans vexer notre entourage. Et en même temps, si c'est à nous de nous adapter, c'est quand même pas cool, quoi. Donc, c'est vrai que tu as raison, c'est un équilibre qui est pas évident. Là, j'avais des mamans qui allaient accoucher, avec qui je discutais. Et, elles me disaient, on est en confinement, donc ça aide sur le sur les excuses, etc. Mais qui disaient, ma famille voulait venir tout de suite, mais bon, comme on est confiné, elle pourra venir que dans 3 semaines. Et donc, je lui demande comment elle se sent par rapport à ça. Et là-dessus, elle me dit... en fait, ça me va bien parce que je ne me voyais pas les gérer, eux, plus le bébé en sortant de la maternité. Et je lui fais, pourquoi les gérer ? Elle me fait, parce qu'il serait venu en mode invité. Mm-hmm. Donc, c'est vrai qu'il faut réussir à trouver les bonnes personnes ou à leur dire ce qu'on attend d'elles.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est difficile aussi de ne pas l'exprimer parce que c'est normal, en fait, que la famille elle ait envie de venir voir... la maman, qu'elle a envie de venir voir le bébé, et ils ne savent pas forcément comment s'y prendre.
Je pense qu'on a encore aussi cette vision, et moi la première, le nombre de fois où je l'ai fait, on va dire 8 ans en arrière, quand mes copines ont commencé à avoir des enfants, à venir chez les parents. Alors, je ne restais jamais très longtemps, parce que ça, je le savais, mais je venais pas forcément les mains dans les poches, mais plutôt avec un cadeau pour l'enfant ou pour la maman, mais je ne venais pas avec un repas. Et je repartais, j'aidais à ranger rapidement, mais disons que je n'avais rien fait d'utile dans la maison. Et maintenant seulement, je me rends compte qu'en fait, il aurait fallu que je vienne avec un repas tout prêt pour la famille, qui ne mange pas avec moi, toi, qui mange le soir après ou peu importe, et que j'aurais dû proposer, de faire un petit brin de vaisselle ou de lui étendre sa lessive ou quelque chose. Ça, déjà, je pense qu'on s'en rend compte qu'une fois qu'on est parent.
Moi, je crois aussi beaucoup que même si on est prévenu, je crois que dans tous les cas, on ne se rend jamais compte, tant qu'on ne l'a pas vécu, de ce que ça va être. C'est-à-dire que je crois que pour une première grossesse, même si on nous dit « ça ne va pas être tous les jours facile, ça va être compliqué, vous allez être fatigué, il va falloir prendre soin de vous quand vous pourrez, etc. », je crois que tant qu'on n'y est pas dedans, concrètement, on ne se rend pas compte du tsunami que ça va être et de à quel point c'était important qu'on nous ait dit ça et de ce que ça voulait dire, quoi.
Mais est-ce que tu ne crois pas que c'est aussi parce que la manière dont les gens nous en parlent de ça, c'est pas que c'est pas bienveillant, mais on a l'impression que c'est un peu autoritaire. Enfin, tu vois, c'est...
Je ne sais pas. Je crois que surtout, aussi l'idée que quand on est dans une grossesse qui se passe bien, s'imaginer qu'après ça va pas être super bien tout le temps, c'est difficile, on n'a pas forcément envie de l'entendre en fait. on a envie de profiter de notre grossesse qui se passe bien et de s'imaginer qu'on va avoir un accouchement génial et qu'après on aura un bébé qui va dormir et que ça va pas être compliqué. Et on n'a pas forcément envie de se projeter dans le fait que ça va être compliqué. Et donc je crois qu'on a aussi une tendance naturelle à l'écouter mais pas à l'entendre, c'est-à-dire ok bon bah, elle me raconte que c'est dur mais en fait elle doit en rajouter, c'est pas vraiment vrai, ça va pas se passer comme ça, ou chez moi ça va pas se passer comme ça.
Oui, puis t'as raison, on l'appréhende toute de manière différente et puis on le ressent aussi de manière différente. Donc
du coup on a compris que quand même c'était important d'avoir une communauté bienveillante autour de soi. Comment on crée ça? Alors de ce que j'en ai compris de tes explications, c'est bien aussi de l'avoir créé avant d'accoucher pour qu'au moment où on accouche, elle soit déjà là, parce que c'est difficile de la créer à ce moment-là puisqu'on a clairement autre chose à faire. Comment on fait pour se créer cette communauté-là pendant notre grossesse? Qu'est-ce qu'on a à notre disposition?
Sans vouloir être négative, c'est vrai que ce n'est pas simple en France. De mon expérience au Canada, où je l'ai, en étant maman pour la première fois au Canada, ça m'a paru facile. Mm-hmm. Maintenant, je pense que ça émerge de plus en plus. On tend quand même vers... une disponibilité de service beaucoup plus importante maintenant. Voilà. Donc, il faut se tourner vers soit des accompagnantes en parentalité, comme ce que je fais. Il y a des doulas aussi qui accompagnent pendant toute la grossesse et qui organisent des rencontres avec d'autres mamans ou qui peuvent avoir ce réseau justement de femmes enceintes autour d'elles. Il y a les associations comme les Super Mamans. Elles permettent de rencontrer des mamans autour de nous, des mamans qui ont déjà éventuellement cette expérience de maman, donc avec qui on peut discuter de nos craintes, de nos peurs ou de nos questions. Moi, je sais que je me suis beaucoup tournée sur Facebook où on retrouve des groupes de mamans. Alors, il y a maman de telle région, maman de telle ville, etc. Et donc, ça permet de se rencontrer. J'en ai vu beaucoup avant le confinement qui disaient « Ah, bah, j'accouche telle date, qui est dispo avant pour se rencontrer, etc. » Et c'est vrai que ça permet de tisser du lien et de se voir.
J'ai vu passer quelques Blessing Ways, j'en ai pas vu beaucoup, mais est-ce que de faire, alors peut-être tu vas pouvoir nous en dire un peu plus sur ce que c'est, d'après ce que j'en ai compris, c'est une réunion avec ses amis, organisée par une accompagnante en périnatalité ou par une doula ou par qui on veut, par soi-même, ça... et avec ses amis, est-ce que ça peut être l'occasion de partager justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire d'expliquer à ce moment-là, alors qu'on est enceinte, et qu'on célèbre la femme enceinte, comment ces gens-là vont pouvoir être utiles en étant présents après la naissance?
Oui, tu as complètement raison. Alors, je ne suis pas une experte en Blessing Ways, mais le Blessing Way, à la base, en fait, c'est un rite de passage. C'est une tradition navajo, il me semble, qui consiste en fait à bénir des personnes en période de transition. Donc, ça pourrait être n'importe quelle transition, la jeune fille qui devient femme, donc dans notre cas, la femme qui devient mère, etc. Et donc, les Blessing Ways, elles sont quand même généralement organisées par des doulas, parce qu'il y a un côté un peu spirituel qui rentre en compte pour célébrer le féminin et la femme, etc. Et on peut les considérer de nos jours un peu comme... je dirais une version un peu moins matérialiste qu'une baby shower. Enfin, voilà, c'est un peu l'autre pendant de la baby shower. Et c'est vrai que tu as raison, avec cette cérémonie, on va venir montrer à la maman qu'elle a autour d'elle un cercle sur lequel elle peut compter, que si elle se sent seule, surtout avec la période du postpartum, eh ben que justement, elle va se sentir bien, bien entourée, bien soutenue, bien accompagnée. Et le plus important, en confiance pour oser demander de l'aide. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, que ce n'est pas toujours facile de demander de l'aide.
Oui, ou de l'accepter même quand on nous la propose. Des fois, on est un peu gêné quand il y a quelqu'un qui vient chez nous et qui nous dit « Tu veux que je te fasse la vaisselle ?»
C'est vrai. Non, mais tu as raison, mais ça, c'est parce qu'on n'a plus l'habitude. Enfin, on n'a pas eu l'habitude de ce soutien. Et en fait, il faut qu'on réapprenne ce que c'est que la sororité et qu'on réapprenne à l'accepter. Je pense qu'on a, ouais. on a eu un peu une déconnexion autour de ça. Mais, donc là, avec la Blessing Way, avec toutes les petites attentions, il me semble que ça dure quasiment 3 heures. Enfin, c'est 3 heures où la maman, elle est au centre de l'attention, où il y a un respect et de la bienveillance. Ça me paraît vraiment génial à organiser pour qu'on puisse profiter de la fin de sa grossesse. Ça se fait vers la 35e semaine. De mémoire, et ça permet de remplir son réservoir affectif, donc ça veut dire qu'elle va être chargée d'ocytocine, c'est nickel pour l'accouchement et c'est nickel pour le début du postpartum. En plus, ça permet, comme tu le disais, de se sentir reliée à ces femmes, donc nos amies, nos sœurs, nos mères, et en effet d'avoir partagé nos attentes certainement sur comment on pourrait leur demander du soutien et qu'est-ce qu'on attend autour de ça.
Ok. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur l'association Super Maman? Est-ce que tu peux nous dire d'où ça vient, qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne?
Alors, l'association des Super Mamans, c'est un réseau de bénévoles qui est né en Suisse en 2015 et dont le concept a été exporté en France début 2020. Donc, on le disait, hein, en tant que maman, on se sent seule et isolée. On a besoin de se sentir soutenue et entourée. Et le réseau Super Maman, au travers de bichonnage, met en contact des mamans cadeaux. Ce sont celles qui vont offrir un repas avec les mamans à bichonner. Ce sont celles qui accueillent un enfant. Donc, les mamans cadeaux, elles vont offrir aux jeunes mamans. Et quand je dis jeunes mamans, je ne veux pas dire jeune en termes d'âge, c'est une maman qui vient d'avoir un bébé, ça peut être son 10e, ou son premier, peu importe en fait, une maman qui vient d'avoir un enfant peut être bichonnée pour être accompagnée. Donc les mamans cadeaux vont venir offrir à ces mamans une présence, un soutien moral en complément d'un repas sain et fait maison. Et ces mamans cadeaux, ce sont des mamans, des grands-mères, mais ça peut aussi être des femmes qui ne sont pas encore mamans, mais qui ont cette force de caractère, on va dire, à venir aider les autres et à soutenir. Et les mamans à bichonner, il n'y a pas d'exception. Donc l'association, elle bichonne toutes les mamans qui ont un enfant dans les 2 mois de naissance du bébé. Donc normalement, tu t'inscris un petit peu en avance. Quand tu as eu ton bébé, tu fais un petit message à la maman contact, celle qui gère le département, pour lui dire « Hop, c'est bon, bébé est arrivé, je suis à la maison, on peut organiser les bichonnages. » Et puis, tout le réseau se met en route pour pouvoir apporter entre 5 et 7 repas à la famille.
Est-ce que c'est une seule maman cadeau qui est en contact avec une maman à bichonner et qui doit faire les 7 repas?
Non.
Ou est-ce que ça peut tourner?
Oui, tout à fait. L'idée, en fait, c'est que... parce qu'il ne faut pas non plus que ces super mamans deviennent une contrainte pour les mamans cadeaux. Enfin, je veux dire, on est en train d'essayer d'aider une maman qui vient d'avoir un bébé. Ce n'est pas pour aller...
surcharger la voisine.
C'est ça. Non, mais sinon, ça n'a plus de sens. Donc, non. C'est pour ça qu'on cherche énormément de mamans cadeaux partout en France. Ça permet vraiment à chacune de tourner et de ne pas faire tous les bichonnages. On fonctionne avec un doodle, chacune peut s'inscrire, donc en fonction de la date, enfin de la période du bichonnage, en fonction du lieu et en fonction aussi éventuellement de la famille et de son régime alimentaire, parce qu'on a des mamans qui ont des allergies, etc. Donc ça peut être difficile pour des mamans cadeaux qui ne savent pas, je sais pas, comment faire du sans gluten par exemple. C'est pas toujours facile. Donc les mamans cadeaux peuvent, entre guillemets, choisir leur disponibilité. Si elles sont en vacances, de toute façon, on va pas leur demander d'arrêter leurs vacances, ou si elles ont beaucoup de travail en ce moment-là, ou qu'un enfant est malade, enfin, il n'y a pas de souci, il n'y a aucune obligation. Et on essaye d'avoir entre 5 et 7 passages, donc ça pourrait vouloir dire 5 à 7 mamans cadeaux qui passent.
D'accord.
Et c'est là que je disais tout à l'heure que c'est hyper intéressant pour la maman à bichonner, mais aussi pour les autres, c'est que, on rencontre des mamans qui habitent à côté de chez nous. On ne va pas non plus aller bichonner une maman à 50 bornes. On va aller bichonner une maman qui habite dans notre ville ou dans la ville d'à côté ou la ville par laquelle on passe pour aller au travail. Et donc, c'est vraiment c'est notre région. Ça fait partie un peu de notre cocon. Et on voit beaucoup d'amitié en fait se créer avec l'association. Parce qu'elles se rencontrent une fois par le biais de Super Maman, mais après, elles sont en contact. Donc, rien ne les empêche de se faire un petit message pour se retrouver une fois après, pour papoter, pour faire une petite balade. C'est vraiment chouette de voir tout ça.
Ok, comment on fait si on veut devenir maman cadeau ou si on est enceinte et qu'on souhaiterait être bichonnée à la naissance de notre enfant?
Alors, on a tous les formulaires sur le site internet, donc c'est supermamanfrance.com. Y a un onglet pour les mamans à bichonner, un onglet pour les mamans cadeaux, et dans les deux cas, il faut trouver son département et choisir le formulaire d'inscription qui convient. On a divisé la France par département parce que sinon, c'était un peu... compliqué à gérer. C'est pour ça que moi, je suis maman contact de l'un. Ça veut dire que je gère toutes les demandes de bichonnage pour l'un et toutes les inscriptions maman cadeau dans l'un.
Ok, ça marche. Bon, moi, je trouve que c'est un super concept. J'adore l'idée de ces super mamans.
Ah ouais, non, mais c'est chouette. J'ai organisé un bichonnage récemment. La maman, par téléphone, quand j'ai pris contact avec elle, me dit « Écoute, j'ai pas besoin d'un repas, c'est juste que j'ai 3 enfants d'un âge assez regroupé. J'aurais surtout besoin que quelqu'un vienne, je sais pas, 30 minutes, me garde le bébé pendant que je fais une pause pour que je me ressource, en fait. Mm. » Et puis j'ai fait appel aux mamans cadeaux et quand elle a reçu l'email avec les visites, donc même pas encore de visites, juste pour voir la liste des visites, elle m'a dit que ça lui avait fait comme ouvrir un cadeau de Noël. Voilà, elle était agréablement surprise de voir toutes ces mamans cadeaux qui répondaient à son appel.
Ouais, c'est chouette. Alors, j'avais des questions après sur les cercles de femmes que toi t'organises.
Oui.
Moi, j'ai jamais participé à un cercle de femmes. Du coup, je suis très curieuse de savoir de quoi on y parle, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on y fait là-dedans.
Alors, les cercles de femmes, on peut trouver des cercles de femmes très spirituels, mm-hmm. un peu dans la lignée des Blessing Ways, etc. Et des cercles de femmes plus... Alors, je vais appeler terre à terre, je ne sais pas du tout si c'est le bon mot, je ne sais pas comment les catégoriser, mais... on va dire moins spirituel. Ouais. Et en fait, il faut réussir à trouver le cercle qui nous convient le mieux. Donc moi, quand j'organise des cercles pour les futures et les jeunes mamans, c'est dans l'objectif que ces jeunes mamans se rencontrent et se créent leur village et leur cocon, enfin leur tribu, pour les aider pour la suite avec leur bébé. On est basé sur le principe de bienveillance et de non-jugement. Comme en fait, il y a énormément à dire quand on devient maman, que ce soit pour le premier ou le troisième. Moi, j'ai découvert plein de trucs à ma troisième grossesse que je ne savais pas possible. On oriente les rencontres sur des thématiques. Alors, on va faire les incontournables, hein, comment s'est passée la naissance du bébé, nous, notre naissance en tant que maman, les grandes étapes du développement, on va parler du retour au travail, le nouvel équilibre familial. Voilà, on va parler un peu de toutes ces thématiques. Et moi, avec mes différentes formations, ça me permet aussi d'animer des petits temps un peu spécifiques où je vais leur parler du bienfait du portage, des bienfaits des signes associés à la parole ou encore des bienfaits du bébé yoga. Mais je fais aussi appel à des experts dans d'autres domaines comme par exemple le massage bébé, la réflexologie ou la naturopathie. Pour qu'on ait des échanges et puis aussi pour... des fois, on ne connaît pas. Par exemple, moi, j'ai découvert la réflexologie il n'y a pas très longtemps. J'avais jamais essayé avant. Je ne devais pas trop parler. Donc voilà, c'est pour aussi leur faire découvrir des choses qui pourraient leur permettre de prendre soin d'elles. Parce que l'idée, vraiment, c'est qu'à la fin, elles sortent du cercle et qu'elles se sentent reboostées, apaisées et pleines de bonnes ondes. Donc, on va vraiment avoir un temps d'échange. Voilà, sur les thématiques dont je parlais. Et puis après, je ponctue avec des temps de relaxation, des temps de création, de gourmandise aussi. Bon, là, c'est confinement, on essaye de pas trop manger. Mais voilà, l'idée, c'est qu'on prenne un temps pour soi, qu'on s'accorde une pause dans notre quotidien qui n'est pas toujours, toujours simple.
Et tu mélanges des femmes qui ont déjà accouché et des femmes qui sont enceintes.
Alors ça, non, par contre. Honnêtement, je voudrais pas que ça fasse peur aux femmes enceintes ou que ça les stresse par rapport à certains sujets. Donc, je préfère avoir des mamans qui sont enceintes et qui vont accoucher dans leur dernier trimestre de grossesse ou des mamans qui viennent d'accoucher. Et en fonction du nombre aussi, j'adapte. Est-ce qu'on fait des mamans qui ont un bébé de moins de 3 mois ou de plus de 3 mois, par exemple? Je vais avec des mamans qui ont des enfants jusqu'à 6 mois à peu près. Parce qu'après 6 mois, le bébé, il est trop... il bouge un peu trop. Et donc, la maman, elle ne prend pas plaisir à écouter, mmh. puisqu'il faut qu'elle... qu'elle prenne soin, qu'elle soit attentive et qu'elle soit là pour son enfant. Donc c'est moins agréable.
Tu vois, tout à l'heure on disait les mamans, elles sont pas assez prévenues de ce qui les attend après. Le fait de mélanger, tu vois, et en même temps, tu vois, tu dis toi-même, ah non, je les mélange pas parce qu'il faut pas qu'elles aient peur. C'est très paradoxal, tu vois.
Non, tu as raison. Alors, je mélange pas les femmes enceintes et les mamans qui ont accouché parce que il y a quand même déjà beaucoup de stress autour de l'accouchement. Mm-hmm. Une maman qui est déjà stressée par l'accouchement, j'aurais peur que les histoires des autres soient des fois trop poignantes, tu vois, trop saisissantes en fonction de... En plus, si on parle de comment s'est passé l'accouchement, ça, les cercles de femmes, ils sont quand même très intimes, dans le sens où on va vraiment libérer notre parole, se décharger, et des fois dire des choses qu'on n'irait pas dire ailleurs, parce que là, on sait que ça ne sortira pas du cercle. Et la façon dont on peut raconter une histoire peut vraiment être émotionnellement chargée.
Oui.
Donc, pour les mamans qui vont accoucher, tu vois, ça me...
Oui, oui, non, mais je comprends le point de vue, hein, mais en même temps, je trouve que du coup, on crée aussi cette distance entre des mamans en postpartum et des mamans enceintes, quoi. Est-ce que dans tes mamans enceintes, tu n'as que des mamans de premier, par exemple, ou est-ce que tu mélanges... ça peut être intéressant d'avoir des mamans de premier et des mamans de plusieurs, puisque du coup, elles peuvent partager leurs premières expériences en ayant moins ce côté émotionnel, puisqu'il est plus
oui.
loin.
Alors ça, oui, ça, en effet, je ne sépare pas ça dans cette catégorie-là. C'est soit on est enceinte, soit on vient d'avoir un bébé, mais que ce soit le premier, le deuxième, le troisième, ou peu importe, en effet, elles sont regroupées. Et comme tu dis, ça, c'est très intéressant pour le partage d'expérience.
Ok. On a beaucoup parlé des mamans, et je trouve ça chouette. C'est quand même nous qui accouchons, donc c'est normal qu'on parle beaucoup de nous. Mais quelle place on donne au père dans tout ça?
C'est une question qui n'est pas, évidente. Et c'est difficile parce que d'un côté, vraiment, on voit que le père, enfin le co-conjoint, est souvent oublié. On le voit lors des rendez-vous médicaux, hein, des fois où ils ne sont pas toujours invités à participer, aux maternités qui ne sont pas du tout adaptées pour accueillir des familles. Ça commence à changer un peu, mais c'est vrai qu'à la base, il y a clairement un déséquilibre. On voit que les papas sont de plus en plus actifs et acteurs, que ce soit pendant la grossesse ou après avec leurs enfants. Moi, je le vois dans mes ateliers bébé-signe. J'ai souvent les deux parents qui participent. Je trouve ça génial. Mais je me suis souvenue que quand j'ai accouché de mon premier il y a 8 ans, si j'avais vu un papa dans toutes les cours, classes, etc. que j'ai fait, c'était le bout du monde. Mm-hmm. Donc ça vient, je trouve.
Je trouve que cette question de la place du deuxième parent, elle est aussi centrale que l'accompagnement des mamans.
Ah, mais tu as totalement raison. Ça, c'est certain. Et c'est vrai que là, ce soir, on a beaucoup parlé de sororité parce que je pense que on a ce besoin de se tourner vers des personnes qui vivent ce que nous vivons. Donc, bah, en tant que maman, en tant que femme, mère, bah, on se tourne vers des mamans, c'est clair. Mais moi, j'espère pouvoir organiser des cercles de papa et aussi des cercles de famille. Mais ça ne sera pas la même, ça sera pas le même type de discussion parce que des fois, on ne peut pas aborder les mêmes choses quand on est avec son conjoint, entre guillemets, parce qu'on a besoin de parler, juste d'exprimer notre ressenti, nos émotions, pour pouvoir justement travailler sur nous et avancer plus loin. C'est juste le besoin de se retrouver entre personnes qui ont le même problématique au même moment. Ça aussi, je l'ai vécu. Moi, j'étais enceinte, j'ai été la première de mon groupe d'amis à être enceinte. Comme elles n'étaient pas enceintes en même temps que moi, il a fallu que je me trouve un autre cercle. Et ma troisième grossesse, par contre, j'ai été enceinte en même temps que d'autres amis. Bah, je n'ai pas vécu la même façon, puisqu'en fait, comme on était à peu près en même temps, j'ai pu échanger avec ces personnes-là sans avoir à me refaire une nouvelle tribu.
Ouais. Bon, bah, écoute, je crois que j'ai fait le tour de mes questions. C'est hyper intéressant. Est-ce que tu vois quelque chose à rajouter, toi ?
Eh bah, écoute, je ferai juste peut-être un petit bilan ou une petite conclusion, entre guillemets, pour pouvoir aider nos mamans et les soutenir en tant qu'entourage. Quand on a une maman à côté proche de nous, voilà, je dirais que prendre des nouvelles de la maman, rien que ça, des fois, juste faire un petit message pour savoir comment elle se porte, pour lui demander comment elle vit son postpartum, et en lui posant la question, pas juste en lui disant « Salut, ça va ?» et qu'on l'écoute, juste l'écouter, sans donner de conseils, sans essayer de lui trouver des solutions, juste pour qu'elle puisse déposer ses émotions en toute confiance, je pense que déjà rien que ça, ça fait beaucoup de bien. Le deuxième, ça serait ce qu'on disait tout à l'heure, de rendre des services. Donc, venir cuisiner un petit plat ou l'aider à préparer son congèle avant la naissance, faire quelques courses, je ne sais pas. Enfin, je trouve que ça, ce sont les services que l'on peut rendre sans que ça gêne. C'est vrai que quand tu fais le ménage chez quelqu'un d'autre, ça peut mettre mal à l'aise. Mais là, apporter un repas, enfin, c'est assez simple et ça fait hyper plaisir. Mmh. Et puis, ça peut être aussi de déposer des petites attentions, faire livrer un petit bouquet de fleurs. On passe dans le quartier, on s'arrête, on sonne, on fait juste un petit coucou pour dire qu'on pense à elle et on repart. C'est un livre, alors bon, elle n'a pas forcément beaucoup le temps de lire, mais si c'est un petit livre qu'on a lu et qui fait du bien, et ben, le lui passer plutôt que de le mettre dans sa bibliothèque, par exemple. Enfin voilà, ça serait mes conseils pour pouvoir justement créer ce petit village pour les jeunes parents qui viennent d'avoir un bébé.
Ok, ça marche. Et comme tu t'en parlais tout à l'heure, on en parlait aussi avec Amandine, apporter un repas, mais pas celui qu'on va partager avec notre hôte, un repas pour eux, pour la famille, pour qu'ils aient pas à faire à manger. Je pense que c'est assez simple à faire. On n'est pas obligé de le faire soi-même si on n'a pas envie, si on n'a pas les compétences. Mais je pense que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut faire à des parents qui viennent, enfin, à des gens qui viennent d'être parents.
Ah, mais complètement, complètement.
Mm. Ok, mais écoute, super. C'est une belle conclusion. Tu nous as bien résumé l'épisode. Merci beaucoup.
Parfait. Merci beaucoup, Charline.
Cet épisode touche à sa fin. Si vous souhaitez à votre tour participer à l'entraide mise en place par l'association des Supermamans France, ou si vous avez ou allez bientôt accoucher et que vous avez besoin d'être bichonné, rendez-vous sur le site www.supermamansfrance.fr avec un S à maman. Je vous mets le lien dans les notes descriptives de l'épisode. Si vous souhaitez en savoir plus sur les cercles de femmes ou les ateliers proposés par Mélanie, rendez-vous sur son site internet www.nasama.fr. Je vous mets également le lien dans les notes descriptives de l'épisode. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, parlez-en autour de vous, à vos amis qui pourraient être intéressés sur vos réseaux sociaux. Parlez-en également à votre sage-femme, votre médecin généraliste, votre pédiatre ou tout autre professionnel qui vous accompagne afin qu'à leur tour ils puissent en parler à d'autres parents. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux et que vous souhaitez recevoir une notification à la sortie des nouveaux épisodes, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse parentinformé@gmail.com. Vous pouvez retrouver tous les épisodes ainsi que leurs notes classées par âge et par catégorie sur le site internet www.parentinformé.fr. Rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.